Sans détour avec François Beauregard.
Bonjour, ici François Beauregard et vous écoutez Sans détour, édition du 30 novembre 2020. Aujourd'hui, nous allons parler avec M. Locke Corrie, qui est directeur général du regroupement québécois du parrainage civique. On va parler de relations égalitaires, on va parler d'inclusion, on va parler de comment briser l'isolement avec lui. Nous aurons également en notre compagnie M. Paul Lannoy, qui est commissaire au développement durable au bureau du vérificateur général du Québec. M. Lannoy, la semaine dernière, déposait un rapport qui soulignait les manquements importants dans l'intégration pour les jeunes personnes en situation de handicap entre les études, la formation et, d'un autre côté, le marché du travail. Il y a un fossé qu'on a bien de la misère à franchir. Nous aurons également avec nous M. Martin Prévost, directeur de l'accompagnement chez Auticonsult. Auticonsult est une entreprise qui se dévoue au placement dans le domaine de l'informatique et de la technologie, qui place des personnes qui souffrent ou qui ont une neuroatypie du type Asperger ou encore spectre de l'autisme. Et avec ces consultants hors normes peut-être, mais excellents, on va voir comment tout ça se produit. Alors, on est avec vous pour un autre Sans détour. Alors, pour débuter, nous avons avec nous M. Locke Corrie. Bonjour, M. Corrie. Comment allez-vous?
Bonjour, François. Ça va bien, merci.
Ça va très bien. Vous êtes directeur général d'un organisme qui s'appelle le Regroupement québécois du parrainage civique. Alors, évidemment, avant d'aller plus loin, expliquez-nous qu'est-ce que le parrainage civique?
Alors, le parrainage civique, hein, c'est un long titre et c'est un mot un peu inconnu pour les gens, mais le parrainage civique, c'est une relation de jumelage entre un bénévole et une personne vivant avec une limitation. Et cette limitation, c'est la déficience intellectuelle, TSA, handicap physique, voire des problématiques en santé mentale. Et donc, on les jumelle, une relation de personne à personne, égalitaire, pour mieux, intégrer, inclure dans la société les personnes vivant avec une limitation.
Cet organisme ou cette collection d'organismes, parce qu'évidemment, il y a un aspect très local, il faut que les gens soient dans le même patelin, mais ce regroupement au Québec étant même lui-même issu d'un mouvement qui est mondial, tout ça a commencé, je pense, dans les années 70.
C'est bien ça.
Oui, aux États-Unis, je pense, avec Wolfenberger.
Wolfenberger, oui. Ouais, on a toujours un peu du mal à le prononcer, mais oui, c'est ça, mais il est né au Québec, c'est ça, au milieu des années 70, suite à la désinstitutionnalisation, autre mot un petit peu long à dire, mais donc c'était vraiment pour travailler sur l'environnement des personnes vivant avec une limitation. Et nous, grâce à ce mouvement, le parrainage civique, on pense que cette relation de personne à personne facilite davantage l'intégration. Un peu, je prends souvent l'exemple des cours particuliers de l'orgue, mais avec un professeur particulier ou une professeure particulière, on progresse un peu plus dans son apprentissage. C'est ça que l'on recommande au parrainage civique par cette relation de jumelage. On pense que cette relation de personne à personne aide beaucoup mieux la personne à prendre confiance en soi et à développer des habiletés personnelles, voire professionnelles, en tout cas à acquérir des habiletés.
Et c'est une époque comme, par exemple, parce que ce qui me vient à l'esprit, ce sont les grands frères, grandes sœurs, qui souvent, on parle d'un parrainage entre une personne adulte et un jeune ou une jeune qui peut avoir des difficultés d'adaptation. Mais là, on parle de deux adultes qui cheminent ensemble et qui font fi de ce qui pourrait les différencier.
Alors c'est ça, oui, on fait fi de tout ça. Personne n'est en relative difficulté, mais on cherche à briser l'isolement social. Je prends souvent l'exemple, avec la Covid c'est un peu compliqué, mais souvent quand on sort prendre un verre au restaurant, on voit très peu de personnes vivant avec une limitation dans ces lieux-là, alors qu'ils ont tout à fait le droit en tant que citoyen d'être
oui,
là,
tout à fait.
Etc. Mais ils se sentent pas forcément intégrés à la société, c'est pas forcément adapté, etc. Et donc il y a la gêne, le regard, etc. Donc avec l'aide d'un parrain ou d'une marraine, ils se sentent davantage en confiance pour s'intégrer à la société. Et nous, c'est vraiment une relation égalitaire, c'est-à-dire que le bénévole vient comme il est et on lui trouve, comment dire, une personnalité qui va fitter avec ses envies,
oui.
Que ce soit pour le bénévole ou pour le fidèle. Donc, entre guillemets, on essaie de
faire le bon mariage. Enfin, le mariage n'est peut-être pas le bon terme, mais il faut, que vous fassiez le bon appariement. Comment est-ce que vous vous y prenez, justement, pour voir à ce que ce soit un succès et qu'après 2-3 semaines, on ne vous revienne pas avec des grincements de dents?
Alors, évidemment, il y a tout un processus d'un questionnaire en fonction des envies des bénévoles, mais également des filleuls, c'est-à-dire est-ce que l'on veut quelqu'un de similaire à nous pour partager des choses, ou on veut quelqu'un de complémentaire pour s'apporter des choses que l'on n'a pas forcément dans la vie. Donc, en fonction des personnalités de tout un chacun, donc on peut prendre votre personnalité, François, et en fonction de vous, trouver quelqu'un qui va vraiment s'appareiller avec vous. Si vous avez juste envie de rester relax à regarder un film, bon, on va trouver quelqu'un qui va être très relax, qui veut juste regarder un film, parler, avoir une discussion, ou des personnes qui sont davantage plus actives, sportives, qui veulent avoir...
faire du parachutisme, par exemple. Ouais, voilà.
Éventuellement. Mais donc, vous rigolez, mais il y en a qui sont partis en voyage ensemble, mm-hmm. c'est-à-dire des longs voyages, mais tout comme certains, c'est juste aller prendre un café ensemble une fois toutes les deux semaines. Mais c'est quelque chose de très simple en fonction des envies de chacun et du rythme de chacun. C'est ça la liberté de bénévolat chez nous.
Est-ce que, évidemment, là, je vais peut-être parler du mauvais côté des choses. Il y a quand même, peut y avoir des craintes à savoir le passé, l'historique. Est-ce que les bénévoles sont filtrés? Est-ce que vous vous assurez qu'il n'y a pas d'intention malicieuse dans leur démarche?
Ben oui, évidemment. Nous travaillons avec des personnes qualifiées de vulnérables, mais il y a une vérification des antécédents judiciaires. Évidemment, tout le processus et le jumelage se fait et est chapeauté par tous les organismes de parrainage civique au Québec. Nous sommes une vingtaine. Donc, tout cela est contrôlé et évidemment, on s'assure des bonnes intentions, que ce soit du bénévole, mais également du filleul dans son processus de socialiser au niveau du parrainage civique.
Et ce parrainage-là peut durer longtemps. Cette amitié, cette relation égalitaire, si tout va bien, ça peut durer des années.
C'est ça. On parle de relation d'amitié, d'entraide, mais évidemment, il y a nos plus vieux jumelages ont quasiment 40 ans. Oh. Donc, ils sont beaucoup plus âgés que moi, oui, c'est ça. mais donc, oui, il y a des longues relations de jumelage. Évidemment, le suivi, là, est beaucoup moins fréquent, mais on s'assure que tout se passe bien, que la relation de jumelage existe toujours, etc. Mais petit à petit, entre guillemets, chacun rentre dans l'univers de l'autre, que ça soit amical, même familial. C'est un membre de l'entourage du bénévole, mais également du fidèle. Et puis, c'est ça, les deux s'apportent l'un et l'autre, comme vous avez avec un ami, éventuellement, dans vos relations amicales.
Parce qu'au début, il y a un certain encadrement, ça c'est bien normal. Il y a un aspect artificiel à cette rencontre, parce qu'on veut que deux personnes se rencontrent et on organise un peu un rendez-vous à l'aveuglette. Mais par la suite, évidemment, si tout se passe bien, le cadre tend à se fondre un peu dans le paysage. Vous faites un encadrement, donc je suppose que vous rencontrez et le filleul et le bénévole, ou la filleule ou la bénévole, régulièrement au début.
Il y a des suivis réguliers, évidemment, au tout début. On les accompagne, c'est-à-dire qu'on les parachute pas. Regardez, on vous présente l'un et l'autre. Merci, au revoir. Non. Il y a tout un tas de processus de formation, même également du bénévole sur comment appréhender notre, entre guillemets, nos membres. Donc, vraiment, il y a tout un processus où on accompagne vraiment le bénévole, mais également le filleul qui est en attente pour que le match soit parfait. Évidemment, au tout début, les suivis sont beaucoup plus réguliers, mais au fil des années, il est un peu moins. Mais il y a toujours un suivi régulier de la part des organismes de parrainage au Québec. Et puis, j'ai oublié mon idée, mais le bénévole, au tout début, elle est artificielle, mais le bénévole arrive au tout début avec beaucoup d'attention. Il a vraiment envie de changer le monde, de faire que son bénévolat soit actif. Évidemment que la motivation est très importante, mais on veut calmer la motivation, mais dans le sens où c'est comme un marathon, quoi, finalement. C'est pas un sprint, le parrainage civique.
Vous en avez parlé brièvement tout à l'heure. Avec le confinement que l'on vit depuis plusieurs mois déjà, comment est-ce que vous y arrivez? Parce que l'isolement des personnes qui vivent en situation d'handicap n'a été qu'exacerbé davantage par le confinement. Et comment est-ce que vous parvenez à briser tout ça?
Bah le confinement a vraiment mis en lumière l'isolement social chez les gens, mais encore plus chez nos personnes vivant avec une limitation. Évidemment, comme tout le monde, on essaye de faire avec les moyens technologiques du bord, donc que ce soit les appels téléphoniques, les visos via les différentes plateformes, des visites avec évidemment toutes les mesures sanitaires et distanciation sociale requises, mais évidemment on a dû mettre en stand-by
les sorties au restaurant,
de jumelage. Ouais. Oui, tout ça, mais toutes les rencontres de jumelage physique ont été arrêtées pendant un temps. On a fourni évidemment des masques à tous nos jumelages s'ils se rencontraient, etc. Mais toutes les mesures sanitaires ont été mises en place pour essayer de maintenir. Évidemment, il y a des personnes, et on le respecte bien en fonction des différentes zones, mais qui ont préféré arrêter le jumelage, ou qui se rencontrent tout simplement moins et qui ne respectent pas, entre guillemets, mais les 2-3 heures que l'on préconise chaque mois. Mais ils maintiennent toujours un contact. Et nos personnes les plus isolées, on essaye quand même
de les rejoindre.
Les rejoindre, évidemment. Mm-hmm.
Parce que vous parlez de tout le Québec, parce que on parle ici du regroupement québécois du parrainage civique. Oui. Il y a quand même plusieurs organismes locaux qui sont sous votre ombrelle.
C'est ça. Donc il y en a une vingtaine, et tous ces organismes-là ont fait un travail admirable, font un travail admirable depuis le début de cette situation délicate. Mais nos intervenants, entre les différents Zooms, mais également les visites de courtoisie, la distribution de matériel sanitaire pour les gens. Donc ils sont vraiment venus au quotidien avec eux.
Et je pense que c'est important de souligner que ça regroupe plusieurs régions du Québec. Là, ce n'est pas que les grands centres.
On est même en Abitibi, on est partout.
D'accord, parce que si on va sur le site, il existe un site pour le regroupement qui s'appelle
parrainagecivique.com.
Alors, si on va sur votre site, on peut trouver l'organisme de parrainage civique le plus près de chez soi. On peut, à ce moment-là, entamer une démarche, soit à titre de bénévole qui souhaite s'y investir, ou encore quelqu'un qui se sent isolé, un filleul ou une filleule éventuelle qui voudrait vivre cette aventure. Bien, Monsieur Corey, qui est directeur général du regroupement québécois du parrainage civique, c'est tout le temps que nous avons malheureusement à notre disposition pour parler de cette belle aventure.
Merci beaucoup à vous.
Je vous remercie et à plus tard. Merci.
Au revoir. Boom ba 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 da ba 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 boom ba 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 andare a spada tratta banda di timidi, di incoscienti, di inibettati, di disperati. Niente scoramenti, andiamo a lavorare. Andare, camminare, lavorare. Il vino contro il petrolio, grande vittoria, grandissima vittoria. Andare, camminare, lavorare. Il meridione rugge, il nord non ha salite. Niente paura, di qua c'è la discesa. Andare, camminare, lavorare. Rapide fughe, rapide fughe, rapide fughe. Andare, camminare, lavorare.
Lavorare.
I prepotenti tutti chiusi a chiave.
Chiusi a chiave.
I cani con i cani nei canili. Le rose sui balconi. I gatti nei cortini. Andare, camminare, lavorare. Andare, camminare, lavorare. Voi che siete seri, puntuali, spegnete questi incendi. Nei conventi, nelle anime, nelle banche. Andare, camminare, lavorare. Queste cassaforti, che infernale invenzione. Viva la ricchezza mobile. Andare.
passatone, il cassetto chiuso a chiave. Il futuro al totocalcio per sperare, il presente per amare, non è caso di scappare. Andare, camminare, lavorare, andare, camminare, lavorare. Dai, lavorare. Uno, due, tre, quattro, io.
Un manque de coordination entre les services de l'État nuit à l'intégration des jeunes personnes en situation de handicap sur le marché du travail. Ce n'est pas que nous qui le disons, c'est également ce que M. Paul Lannoy, qui est au bout du fil avec nous. Bonjour, M. Paul Lannoy.
Bonjour.
M. Lannoy est commissaire au développement durable au bureau du vérificateur général du Québec. Et M. Lannoy, la semaine dernière, vous avez, par la voie d'un rapport déposé, fait un constat qui était un peu navrant entre le milieu de la formation de l'éducation pour les jeunes personnes en situation d'handicap et quand il faut aborder le marché du travail. Et vous avez fait des constats qui sont durs, mais bel et bien réels.
Ben écoutez, c'est ce que nous, on a observé, c'est ce qu'on a constaté sur le plancher des vaches, donc sur le marché du travail et en faisant le tour des ministères et de l'organisme que l'on a audité. Donc, c'est le portrait qui est ressorti. Donc, je suis heureux que vous soyez à l'aise avec ce portrait-là.
Bien, disons que une grande partie de notre auditoire sont des personnes qui vivent en situation de handicap et si vous leur posez la question, je pense que selon leur situation et le vécu, leur expérience, ils pourraient confirmer cet état de fait. Vous avez fait un audit auprès de trois ministères et d'un organisme.
C'est ça. Donc, nos travaux ont touché le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé et des Services sociaux, de même que le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, et également cet organisme qui s'appelle l'Office des personnes handicapées du Québec. Donc, on a couvert ces quatre, nous, dans notre jargon, on appelle ça des entités, donc mm-hmm. Ces quatre ministères et organismes, mais on a aussi vu beaucoup de gens sur le terrain. Donc, on est allé parler à des personnes qui sont dans les réseaux, réseaux de la santé et services sociaux, réseaux de l'éducation, des gens dans des écoles, des gens dans des centres de services scolaires, des employeurs également qui font appel à des personnes handicapées, des entreprises adaptées également. Alors, on a couvert beaucoup de terrain, je vous dirais. On a vu une belle diversité là, d'intervenants. Et donc, nos constats reflètent les points de vue là, de l'ensemble de ces gens-là.
Il y a eu une politique nationale qui a été déposée ou mise de l'avant il y a déjà une douzaine d'années, je pense, en 2008. Mais il semble que chacun y va de son initiative sans qu'il y ait un suivi ou une intégration avec ce que le ministère d'à côté a peut-être entrepris.
Bien, effectivement, il y a eu une stratégie nationale de 2008 à 2018. et il y en a une en cours là, de 2019 à 2024. Pour ce qui est de la stratégie de 2008 à 2018, bien, on se rend compte, en tout cas, qu'une bonne partie des mesures n'ont pas été mises de l'avant. On se rend compte non plus qu'on n'a pas vraiment tiré de leçons. Il y a eu un bilan mi-parcours qui a été fait, mais qui était assez succinct, qui était assez limité. Et il n'y a pas eu de bilan final. Donc, on recommence avec une nouvelle stratégie, mais sans nécessairement bien comprendre ce qu'a donné la stratégie précédente.
Et est-ce que vous avez fait ces constatations-là, mais vous avez également émis des recommandations, d'abord au point de vue de la disparité. Est-ce qu'il y a des régions où il semble y avoir des trous qui sont plus béants que d'autres?
Ben, écoutez, on a trouvé beaucoup de disparités sur différents sujets. Alors, entre autres, il y a deux mesures spécifiques qui sont déployées par le ministère du Travail, ce qu'on appelle les contrats d'intégration au travail et les programmes de subvention pour les entreprises adaptées. Et ça, notre rapport le montre clairement. Il y a une grande diversité à travers le Québec. Là-dessus, il y a des endroits qui ont 5 fois plus de déploiement de ces mesures-là que d'autres. Alors, ça pose des questions. Donc, ça reflète encore une fois le manque de coordination entre les différents ministères et organismes qui sont impliqués. Si quelqu'un avait vraiment un regard d'ensemble sur la situation, il y a fort à parier là, qu'il y aurait moins de disparités. On a constaté également des disparités au niveau d'une démarche qu'on trouve intéressante qui s'appelle la démarche TEVA, transition de l'école vers la vie active. Là également, on a vu qu'il y avait beaucoup de variabilité d'une région à l'autre, même d'une école à l'autre à l'intérieur d'un même centre de service scolaire, des centres de service scolaire qui sont les nouveaux noms là, des commissions scolaires. Même chose au niveau de la sensibilisation auprès des employeurs. Là également, on a vu une assez grande disparité là, d'une région à l'autre.
Parmi les suggestions, enfin, à la fois un constat et une suggestion qui en découle naturellement, vous parlez du manque de leadership, du manque, vous parliez de la nécessité d'avoir un regard de haut et d'assembler toutes les pièces du puzzle de manière cohérente. De quel ministère devrait relever cette cohérence? Qui devrait être le maître d'œuvre ou la cheville au centre, la pierre d'angle de tout ça? Est-ce que c'est l'éducation? Est-ce que c'est les services sociaux? Est-ce que c'est l'emploi, la solidarité? Qui doit mener le bateau? Est-ce que c'est l'OPHQ?
Bien, écoutez, ça, c'est une bonne question que le gouvernement devra se poser. C'est pas notre rôle, c'est pas notre prérogative de définir la structure de gouvernance. Nous, on constate que la structure de gouvernance actuelle est déficiente, donc elle comporte des lacunes. Au niveau de la coordination puis du leadership, ce qu'on voit là, quand on lit les textes de loi, quand on lit à propos des responsabilités de chacun, on voit que le ministère du Travail a une responsabilité quant à la coordination de la stratégie. Et comme je l'ai mentionné tantôt, ben la stratégie, pour l'instant, en tout cas, elle a plusieurs déficiences. On a, par exemple, comme je le mentionnais, on n'a pas vraiment tiré de leçon là, de la stratégie précédente. Et au niveau de la prestation des différents services, c'est l'Office des personnes handicapées du Québec qui, en principe, en tout cas sur papier, a la responsabilité de la coordination. Mais par contre, ce qu'on constate, c'est que cet office-là joue plutôt un rôle de conseiller. Et donc, c'est un organisme qui n'a pas nécessairement, entre autres, la capacité là, d'exiger que ces recommandations soient mises en application. Alors donc, ça va être aux différents organismes là, d'établir qui devrait être le leader. Et je prendrais la peine, si vous me permettez, de préciser que quand nous, on fait des recommandations, donc ça reste pas lettre morte. Les entités qu'on a auditées, donc les ministères et l'Office des personnes handicapées, doivent nous produire un plan d'action qui montre comment ils comptent répondre à nos recommandations, Nous, on va examiner la qualité de ce plan d'action-là. Donc, on va se prononcer sur la qualité du plan d'action. Et ensuite, on va suivre la mise en œuvre de ce plan d'action-là une fois par année pendant 3 ans. Donc, il y a vraiment un suivi qui va être fait pour s'assurer que les lacunes qu'on a décelées seront corrigées.
Et s'il n'y a pas de correction, est-ce que vous émettez un autre rapport ou vous avez une instance supérieure auprès de laquelle vous pouvez déposer un blâme?
Ben, écoutez, nous, on tient la commission de l'administration publique au courant de nos travaux. Donc, la commission de l'administration publique, vous le savez peut-être, là, c'est un sous-groupe, c'est une commission parlementaire, c'est un sous-groupe de députés qui se penche sur la qualité de la gestion du secteur public. Donc, à chaque fois qu'on a des rapports, c'est à eux qu'on va les présenter et c'est à eux, entre autres, qu'on va faire l'appréciation du plan d'action. Alors, donc, si jamais ils sont préoccupés, si on est préoccupé, on peut donc le faire valoir à cette commission-là. Et éventuellement, eux aussi peuvent faire pression. Et ça nous arrive occasionnellement de revisiter un sujet si on pense que ça n'a pas été bien suivi, si on pense que les recommandations n'ont pas été mises en œuvre. Je vous donne un exemple. En juin dernier, j'ai déposé un rapport sur la conservation des ressources en eau du Québec. Donc, un rapport qui examinait tout ce qu'on fait pour s'assurer d'avoir de l'eau en bonne quantité, en bonne qualité. Et essentiellement, on a constaté que beaucoup d'éléments qu'on avait vus en 2013 n'avaient pas été corrigés.
D'accord.
Alors, donc, ça nous a mis la puce à l'oreille. C'est pour ça qu'on a fait un nouvel audit sur ce sujet-là. Et... Alors ici, ça restera à voir.
Parce que éventuellement, comme vous dites, ça remonte à une instance politique, parce que tout ça va dépendre d'une volonté politique d'agir pour faire pression sur les différents cadres de la fonction publique pour... cadre dans un sens organisationnel, pas personnel, pour faire pression et voir à ce que les bonnes intentions qui ont été émises avec sans doute un peu de fanfare se traduisent par une réalité qui soit peut-être plus normale et conviviale pour les principaux intervenants. Ben, Monsieur Paul Lannoy, je vous remercie beaucoup de votre transparence et de votre objectivité. Monsieur Paul Lannoy est commissaire au développement durable au bureau du vérificateur général du Québec et venait de tout récemment déposer un rapport qui condamnait le manque d'intégration de leadership et finalement l'inefficacité des mesures pour l'intégration dans le milieu du travail des jeunes personnes en situation de handicap. Merci.
Bien, merci de m'avoir accueilli.
Ça fait plaisir.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
Otsi Consult est une entreprise finaliste pour le prix à part entière dans la catégorie entreprise, qui est une entreprise qui emploie des personnes ayant un trouble du spectre de l'autisme comme consultant en informatique. Nous avons avec nous M. Martin Prévost, qui est le directeur de l'accompagnement chez Otsi Consult. Bonjour M. Prévost.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va bien, merci vous.
Ça va très bien, je vous remercie. Et aujourd'hui, on va parler de technologie, d'informatique, mais essentiellement de personnes qui ont des talents, des talents neuroatypiques qui leur permettent une intégration dans ce domaine-là.
Tout à fait.
Vous avez comme rôle de faire un accompagnement, de trouver la bonne personne pour le bon poste et de voir est-ce que tout se passe bien. Comment vous vous y prenez?
Ben, en fait, au départ, c'est ça, il faut recruter des talents. Vous mentionniez les talents, il faut les recruter. Donc, bien sûr, on se fait connaître dans les réseaux, au niveau des cliniques en autisme, au niveau des établissements scolaires, bien sûr, du réseau du marché du travail en général. Et quand des gens se montrent intéressés à travailler avec nous, ben, on a tout un processus de recrutement qui nous permet de bien connaître ces gens-là et d'être en mesure de mieux les soutenir, d'évaluer quel type de milieu va bien leur convenir. Donc, au moment de leur proposer un mandat comme consultant en informatique chez nous, ben il faut qu'on ait évalué le milieu. Eux, on les connaît, on a fait tout ce processus de recrutement-là avec eux et ça nous permet de faire un bon arrimage.
Parce que, en principe, les personnes que vous recrutez sont les employés d'Auticonsult. Auticonsult est une firme qui place des consultants auprès d'entreprises dans des postes d'informatique, technologie, contrôle de la qualité, et ainsi de suite. Mais ils demeurent vos employés.
Effectivement. C'est le choix qu'on fait parce qu'au fond, ça nous permet aussi de mieux les suivre et de mieux les aider.
D'accord. Et le lien d'emploi, donc, est avec vous. Donc, le lien de confiance, ultimement, se bâtit au fil des mandats parce que c'est toujours avec Auticonsult que l'employé, qu'il soit en technologie, contrôle de la qualité ou ainsi de suite, qui vit avec un trouble du spectre de l'autisme, cette personne-là développe une relation de confiance avec vous qui l'aidait après ça à aller faire des mandats dans des entreprises que vous avez ciblées.
Exactement. Et puis, ce qui se passe cependant, c'est que, bon, ça fait pas très longtemps que nous sommes établis à Montréal, ça fait environ 2 ans, mais ce qu'on remarque, c'est que, bon, les gens sont choisis pour des mandats qui ont une durée déterminée chez nos clients.
D'accord.
Mais le plus souvent, les mandats sont renouvelés. Donc, le client peut avoir estimé qu'il a besoin de quelqu'un pour 3 mois, la personne fait le travail, on trouve une consultante ou un consultant qui convient bien aux besoins du client. Et après ça, le plus souvent, les mandats sont renouvelés parce qu'au fond, nos consultants et nos consultantes ont fait leurs preuves. Et les clients, s'ils ont toujours du travail à faire, ben, ils profitent des talents de ces gens-là là, pour les garder avec eux.
Ben, c'est une belle marque de confiance de voir que les entreprises en redemandent. Juste pour revenir un peu derrière, Auticonsult, vous dites, est établi à Montréal depuis 2 ans, mais ce n'est pas une idée qui est montréalaise à l'origine.
Non, c'est une idée qui a germé en Allemagne. Et puis, ça fait 8 ans déjà que ça fonctionne là-bas et ça s'est répandu pas mal en Europe et un peu partout. Actuellement, ailleurs dans le monde, ça s'appelle Auticon, Auticonsult en France et au Québec, mais c'est la même organisation. Et on a 19 bureaux à travers le monde, on a au-dessus de 300 employés, dont plus des 2/3 sont des personnes autistes. Alors, c'est ça. Et il y a des bureaux en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie.
Et maintenant, au Québec, depuis 2 ans. Au cours des 2 dernières années, combien de placements en entreprise avez-vous été capable de réaliser?
Une vingtaine.
Et tous ceux-là, maintenant, ont été des expériences, je suppose, assez heureuses parce que vous continuez. Et l'expérience acquise ailleurs, vous allez pouvoir en profiter, évidemment, quand vous faites votre travail ici au Québec. Vous ne partez pas de zéro.
Non, malgré qu'il existait déjà une expertise au Québec aussi pour l'emploi des personnes autistes. Donc, il y avait déjà des choses connues ici, dont le principe de l'accompagnement. Par contre, effectivement, la firme elle-même, bon, a commencé à faire ça en Europe il y a environ 8 ans et ça s'est répandu. Mais effectivement, ce n'était pas un principe qui était entièrement nouveau, mais via Auticon, c'est nouveau au Québec depuis 2 ans.
Et là, c'est important quand même de parler que des personnes qui souffrent d'un trouble du spectre de l'autisme ou syndrome d'Asperger ont sont neuroatypiques, mais cette atypie a des avantages probants dans certains types de tâches du fait d'une grande capacité de concentration, d'attention, et je pense que c'est là-dessus que vous tablez.
Bien, entre autres, il faut savoir quand même que les personnes autistes, qu'on pourrait appeler atypiques, si on veut, et les personnes neurotypiques, sont beaucoup plus semblables que différentes. Donc, il y a des forces, par exemple, qu'on va retrouver chez des personnes autistes, qu'on retrouve chez monsieur, madame, tout le monde, et l'inverse est vrai aussi. Cependant, c'est sûr que les gens qui viennent chez nous parce qu'ils s'intéressent aux technologies de l'information, ben, ils ont un intérêt et ils ont développé un talent pour ça. Effectivement, certaines forces particulières vont peut-être être plus présentes chez elles et chez eux. Par exemple, l'attention aux détails, la concentration, certainement, mais je dirais que ce qui fait le plus grand avantage, ça va souvent être la façon de concevoir différemment les solutions.
En anglais, on dit « thinking out of the box ».
On peut dire ça, effectivement. Donc, la créativité, c'est vraiment un atout majeur. C'est quelque chose qu'on doit faire connaître parce que c'est une évidence pour toute entreprise de dire on va accepter quelqu'un qui joue dans l'équipe qui va brasser un petit peu nos idées reçues. Alors, parce que si on leur laisse la place, ils vont s'exprimer, puis ils vont être capables d'apporter des solutions qui sont nouvelles parce qu'ils ont une façon de percevoir les choses qui est assez différente. C'est vraiment là qu'il y a un avantage majeur.
Ils abordent les problèmes sous un autre angle et ça demande évidemment de la part de l'employeur qui les accueille de s'adapter puis d'avoir l'ouverture d'esprit à ce que ce soit peut-être des modèles de travail qui soient différents.
Tout à fait. Puis malgré que quand on parle, par exemple, on se demande s'il faut faire des accommodements pour les travailleurs et les travailleurs autistes en milieu de travail. Souvent, il va se passer des petites choses, effectivement. Il va y avoir des aménagements. Mais comme il peut y en avoir un peu pour monsieur, madame, tout le monde, ils vont peut-être juste être un peu différents. Quand on pense, par exemple, à la conciliation travail-famille, ben ça touche n'importe qui qu'une famille. Bon, ça en sont des aménagements, ça en sont même des accommodements parfois que les entreprises vont faire pour faire en sorte que leurs employés fonctionnent bien, qu'ils aient un bon équilibre de vie et de travail, puis ça leur permet de bien fonctionner au travail et de rester dans l'entreprise. Ben, nos gens, quand ils vont avoir besoin d'aménagement ou d'accommodement, souvent, ça va être très léger. Ça va être, par exemple, au niveau de la communication, des documents qui sont très très linéaires, très très rigides, vraiment du texte, par exemple, présenté sous forme de plan de table des matières. Ben, nous, on va souvent proposer au milieu de travail d'avoir des présentations plus graphiques. C'est souvent plus parlant pour nos personnes d'avoir quelque chose qui soit très visuel plutôt que simplement écrit. Donc, c'est des choses comme ça qui sont souvent très simples à faire. Parfois, les entreprises ne savent pas les faire déjà. On voit nécessairement cette expertise-là, nous, on l'offre, parce que le soutien qu'on apporte, on parlait d'accompagnement au début, le soutien qu'on apporte, on ne l'apporte pas seulement à nos consultantes et nos consultants, mais à nos clients, bien sûr. Donc, pour les aider, par exemple, à devenir plus performants un petit peu en communication, avoir des communications qui soient exemptes de sens caché ou de sous-entendus ou d'imprécisions. On travaille souvent là-dessus. C'est très, très utile pour nos consultants et nos consultants. Puis les entreprises se rendent compte que c'est utile pour tout le monde.
Parce qu'elles-mêmes vont apprendre dans le processus quand deux entités apprennent à se connaître, les deux apprennent quelque chose de part et d'autre. Dans le contexte actuel de confinement puis de télétravail, est-ce que ça a changé un peu votre processus ou la façon de faire le travail ou de l'exécution des mandats?
Mm-hmm. Bien, il y a eu quelques changements. Il y a eu des changements dans notre processus de recrutement parce qu'une bonne partie de ce processus-là se réalisait en personne. Mm-hmm. Et il se fait maintenant à distance. Bon, on s'est adapté comme beaucoup de gens se sont adaptés dans ce cadre-là. Pour l'exécution du travail, il n'y a pas des changements énormes. C'est sûr que tous nos consultants qui étaient en entreprise au début de la pandémie se sont retrouvés à faire du télétravail. Pour plusieurs d'entre eux, ça a été vraiment un gain parce que il y en a plusieurs qui ont des enjeux concernant, par exemple, le transport en commun. Mm-hmm. Puis des fois, bon, le fait de croiser beaucoup de monde dans une journée, des facteurs plus sociaux, il y en a pour qui c'est un petit peu plus exigeant. Donc, de se retrouver à la maison, en plus dans un environnement physique qui est contrôlé.
Qui est familier.
Oui, qui est familier d'une part. C'est pas tellement ça l'enjeu, je vous dirais, parce qu'ils sont tous capables de s'adapter à un milieu de travail.
Mais
c'est plus la question de, par exemple, il y en a qui vont avoir plus de contrôle sur l'éclairage, sur ils sont plus isolés, il y a moins de bruit, il y a moins de distractions. Fait que plusieurs ont trouvé des avantages à ça. Pour d'autres, ça a été neutre. Et on ne se le cachera pas, il y a quelques personnes qui commencent à trouver le temps long un peu parce qu'ils s'ennuient. Parce qu'ils étaient avec une équipe de travail, puis maintenant ils sont tout seuls chez eux, ils n'ont que des contacts en appel vidéo. Donc ça, c'est comme un peu monsieur, madame, tout le monde. Bon, on passe à travers, mais c'est ça, comme je dis, il y en a qui trouvent un peu le temps long parce que les besoins sociaux sont moins comblés.
Et quelle sorte d'emploi ou quelle sorte de mandat vos consultants exécutent-ils ou exécutent-elles? Est-ce que vous avez des niches qui sont plus particulièrement ciblées?
Non, pas vraiment. Ça touche les technologies de l'information en général. Donc, ça va, par exemple, à un bout, il y en a qui vont faire de la gestion des identités et des accès. Il y en a qui peuvent faire carrément du graphisme. On a des gens qui s'occupent de faire des sites web, des sites transactionnels, des applications mobiles. On a des gens qui font du contrôle de qualité, du testing. Il y en a des gens qui sont un peu à l'autre bout du spectre, qui sont dans l'intelligence artificielle, dans l'apprentissage machine ou le machine learning en anglais. Donc, c'est ça. Il y en a qui sont plus ce qu'on appelle des développeurs, excusez-moi les expressions du milieu, des développeurs front-end ou back-end. Il y en a qui font les deux. Donc, c'est extrêmement varié.
C'est une large palette et on peut comprendre aussi que pour quelqu'un qui est intéressé soit à titre d'employeur, aller piger ou profiter de ce bassin de consultants qui sont certainement forts dans ce qu'ils font. Et en même temps, pour si quelqu'un qui nous écoute souhaiterait participer à ce pool d'emplois et vous contacter, c'est facile. On va simplement sur le site
oticonsult.ca
et à ce moment-là, on peut vous retrouver soit à titre d'employeur ou à titre d'éventuel consultant. Bien, c'est tout le temps que nous avons à M. Prévost, mais je vous remercie beaucoup de nous avoir fait connaître une avenue d'emploi qui va faire l'affaire de beaucoup de gens. Merci.
Je vous remercie aussi.
On s'est promené dans les vitrines, on a trouvé un magasin qui sentait l'Orient. On a marché toute la soirée, tes bottes faisaient mal aux pieds, les vieux chinois nous regardaient, nous autres on souriait. La première neige est tombée sur les Chinatown. Les rues sont glissantes, y'a un accident au coin de Saint-Hubert. Des gens talons. Dans l'escalier de ton appartement, ta main cherchait ta clé en tremblant. Les voisins d'à côté criaient, tout de suite on est entré. Chambre, on n'a rien allumé. Par la fenêtre, on voyait la neige tomber. Tu m'as demandé combien de temps l'hiver allait durer. La première neige est tombée sur le Chinatown. Au coin du boulevard, puis la 22e, ils ont trouvé un chat abandonné.
Malgré le confinement, il y en a qui sont vraiment chanceux, chanceuses. Christiane Campagna, au cours de la dernière semaine, a été à Paris, a été en Grande-Bretagne, a été en Martinique. Alors, tout ça au bout de ses doigts, sur son écran. Bonjour Christiane, comment allez-vous?
Grâce à ce qu'on appelait à la fin du 20e siècle l'autoroute de l'information.
Voilà. Alors, qu'est-ce que vous nous rapportez aujourd'hui?
Bien, du côté de l'Angleterre, on a conçu, ce n'est qu'un prototype pour l'instant, mais un test de grossesse pour les personnes ayant un handicap visuel. Ce qui arrive, c'est que les femmes malvoyantes ne peuvent pas utiliser des tests de grossesse habituels sans assistance.
Savoir si le petit papier est rose ou bleu.
Voilà, ce qui les prive du plaisir d'être la première personne à savoir
si elles sont
du
enceintes.
Plaisir ou de la déception, oui, dépendamment parce... de ce qu'on veut, si mm-hmm. de ce qu'on souhaite. Mais il reste que c'est quelque chose de très intime
oui.
et qu'on a nécessairement besoin d'assistance pour savoir la réponse. Alors, sur ce prototype-là, au lieu des petites lignes rayées habituelles ou d'un écran électronique, on a un gros bouton en relief qui indique un résultat positif. Donc, il sort un petit peu de l'appareil si le résultat est positif. Donc, on peut sentir le résultat avec les doigts. Le prototype présente également des couleurs vives pour les personnes qui seraient malvoyantes et ça permet de plus facilement différencier le haut et le bas du test. Aussi, le petit tampon absorbant est 50 % plus grand. Et on a aussi conçu, on fait en sorte que le plastique donne une meilleure résistance là, pour manipuler l'objet. Parce qu'actuellement, tous les tests de grossesse disponibles sur le marché fournissent des résultats visuels. Et c'est pour ça qu'on a eu ce partenariat qui a été fait par une association caritative britannique qui s'appelle la Royal National Institute of Blind People avec l'organisme la compagnie qui a conçu le test de grossesse. Parce que c'est une plainte qu'on avait souvent de ne pas pouvoir savoir de manière privée nos résultats.
C'est un droit fondamental. C'est un peu comme si on avait besoin de quelqu'un pour aller voter. Ou faire des choses comme celle-là.
Donc, d'ailleurs, ça, c'est un enjeu qui avait été soulevé cette année aux États-Unis avec le vote par la poste, qui malheureusement, souvent n'était pas accessible. Évidemment, pour l'instant, c'est qu'un prototype, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis leurs résultats de leur recherche disponibles publiquement. Donc, si une compagnie décidait de se lancer, ils auraient accès gratuitement à la recherche qui a été faite pour concevoir ce nouveau test de grossesse.
Formidable. Et à Paris, là aussi, on consulte les personnes en situation de handicap.
Oui. Bientôt, en 2024, on va inaugurer à Paris le Grand Paris Express, un nouveau métro. Et des ateliers sont organisés avec les différentes associations de personnes handicapées pour poursuivre la conception des équipements adaptés aux différentes formes de handicap. Ce que disent les autorités, c'est que tout est toujours perfectible, mais c'est les associations qui disent que cette fois-ci, ils ont l'impression d'être écoutés. Donc, le 15 octobre dernier, plusieurs responsables d'associations ont été accueillis à la fabrique, là où on fabrique les wagons de métro. Et on a là une reproduction à l'échelle d'une future gare aussi. Et ça permet de voir si, par exemple, les nouveaux distributeurs automatiques de billets sont accessibles autant que l'espace dans les wagons pour entrer et pour y circuler, et en tenant compte des différents besoins des usagers en situation de handicap, qu'ils soient moteurs ou sensoriels. Cette démarche d'échange avec les représentants des personnes handicapées, qui est de plus en plus courante dans le domaine des transports publics, on dit que cette fois-ci, par contre, que c'est un niveau jamais atteint dans la collaboration. Nous n'avons jamais été associés aussi tôt dans un projet de conception, a dit Juliette Abad, qui est administratif de l'AFM Téléthon, là, un des organismes consultés. Et Laurent Collin, qui lui est responsable du pôle fonctionnalité et programme à la Société du Grand Paris, s'est engagé dès le lancement du projet à aller au-delà de l'aspect réglementaire. Parce que c'est souvent ça le problème, les règlements, c'est souvent le strict minimum et c'est souvent handicap moteur.
Oui,
c'est le cas de nos normes en construction ici. Oui,
l'handicap visuel est, on le sait, souvent relégué à « oh, désolé, on n'y avait pas pensé ».
Lui, ce qu'il veut, c'est que l'accessibilité soit de moins en moins une question, en fait, que ça aille de plus en plus de soi, finalement. Si nous parvenons à construire une gare où l'on ne se demande plus si tel équipement est destiné aux personnes handicapées, c'est que nous aurons réussi notre pari.
Bravo.
Expliquer M. Collin.
Un bel exemple à suivre pour toutes les autorités de transport en commun qui nous écoutent. Par ailleurs, Canal M, il y a un Canal M pour Martinique.
Oui, une nouvelle radio dédiée aux personnes en situation de handicap qui s'appelle Andy FM, qui est sur la fréquence 102 de la bande FM en Martinique. Elle émet depuis le 16 novembre dernier. Le lancement s'est déroulé pendant la semaine là-bas dédiée au travail des personnes handicapées. En fait, c'est aussi la semaine, je pense, qui avait lieu en France en même temps. La radio créée et gérée par des personnes en situation de handicap est un projet de Félix Verpré, qui est président de l'association Agir sans voir. C'est quelqu'un qui a un handicap visuel. L'équipe a démarré ses émissions avec 10 personnes, animateurs et techniciens confondus. C'est une radio généraliste, selon ses dirigeants, avec de la musique, des jeux, de l'information. Et comme ils commencent modestement, ils ont passé une entente avec la direction de la Martinique Première pour pouvoir diffuser leurs journaux, le bulletin de nouvelles, autrement dit. Les auditeurs pourront donc entendre des bulletins de nouvelles entre les émissions produites par Andy FM.
Ben, moi, je suis tout à fait pour ça. Je pense qu'entre Canal M ici et Canal M là-bas, il devrait certainement y avoir une collaboration. Et dès que le confinement est terminé, qu'on peut voyager sans crainte, je pense que janvier serait un excellent mois pour faire un échange. Nous pourrions aller passer un mois à Martinique et les inviter à venir ici goûter aux joies de l'hiver. Voilà. Ben, merci beaucoup, Christiane. Nous avons au bout du fil notre collègue, Dominique Tremblay.
Bonjour, ça va bien?
Bonjour, Dominique. Dominique est l'animateur de Parlons de sport, qui chaque mardi prochain, en fait, mardi demain, 1er décembre, 21h. Dominique, vous allez rencontrer et discuter de sujets sportifs encore.
Oui, juste avant, là, j'ai entendu parler de Martinique.
Oui.
Si vous partez dans un avion dans ce coin-là, là, je suis partant. Okay?
Ah, tiens, un autre qui a trouvé l'idée plaisante. Bon, ben.
Oui, entièrement d'accord, on va trouver du sport à faire en Martinique.
Oui, tout à fait.
Revenant là-dessus, en Martinique et partout à travers le monde, le soccer est un sport super populaire.
C'est le sport, oui.
Le sport. Jeudi dernier, Diego Maradona est décédé. Et on ne pouvait pas passer à côté de ce sujet-là. Si tout va bien, je vais avoir en entrevue Arcadio Marcuzzi, qui est le relationniste de l'Impact de Montréal, qui a couvert une Coupe du Monde en tant que journaliste. Et il est originaire de l'Argentine. Donc, il va nous parler de Diego Maradona, de ce qu'il a fait, quel impact cet athlète-là a eu sur lui. Je pense que même ceux qui suivent pas le sport savent qui est Diego Maradona. Et si vous avez moindrement suivi un peu ça, vous avez vu ses exploits de 1986 lors de la Coupe du monde de soccer à Mexico.
La main de Dieu!
La main de Dieu et le but du siècle dans le même match contre l'Angleterre. Peut-être un an après la guerre de Malouines qui avait été entre l'Angleterre et l'Argentine. Il avait mené son pays sur ses épaules jusqu'à la finale où l'Argentine avait battu l'Allemagne 3-2. Comme performance d'athlète, c'était extraordinaire. Et il a eu une carrière pour le moins
mouvementée.
Extraordinaire. Extraordinaire.
Il ne faut rien lui enlever. C'était un des plus grands joueurs. Je dirais tout juste après Pelé, peut-être le plus grand.
Il y a même du monde qui vont dire qu'il est devant Pelé.
Ouais, ça dépend du point de vue, mais quand même, il est dans le top 3, comme on dit.
Ça, c'est sûr.
Et est-ce que vous allez nous parler d'autres choses aussi, à part de soccer?
Évidemment, on va parler de parasport.
D'accord.
Marie-Claude Molnar a été nommée l'athlète para de l'année par la Fédération québécoise de sport cyclisme. On va lui parler de son prix aussi, de son année, et aussi qu'est-ce qu'on prépare pour 2021 pour elle. Il y a Lynn Tremblay qui a fait du tir à l'arc à quelques Jeux paralympiques et maintenant fait du tir. Elle a lancé sa biographie et on va parler de ça. Il y a aussi, on va parler à la directrice générale de l'Association québécoise des sports pour paralytiques cérébraux, José Malo, qui va nous parler comment ça se passe dans l'association. Et vous savez, si je dis un nom, Camille Chai, vous la connaissez?
Oui,
ça vous
dit oui, tout à fait.
Elle va faire une petite chronique dans mon émission demain. On va échanger sur des anecdotes dans le cadre de compétition. Vous savez, j'ai été athlète moi aussi, donc on va échanger sur nos différentes anecdotes. Ça risque d'être très drôle et très intéressant.
Ben,
quelques petites bijoux à vous raconter.
Ben, je suis sûr que ça va être assez savoureux parce que dans les grandes compétitions et ainsi de suite, surtout pour des athlètes en situation de handicap, qui sont reçus par des pays hôtes, souvent pleins de bonne volonté, mais un peu dépassés. Et il y a aussi des chocs de culture quand vous rencontrez des athlètes de tous les pays.
Puis je vous dirais que même s'il n'y a pas d'handicap, des fois, il y en a des drôles, des vertes et des pommures.
Voilà.
Donc, on va bien s'amuser. Et Yvan va aussi faire une chronique. Je pense que lui, il s'ennuie un petit peu de hockey. On ne sait pas trop si la ligne nationale va commencer au mois de décembre, au mois de janvier ou un peu plus tard. On n'a pas encore de date définie. Mais à chaque saison de hockey, il y a une activité des amateurs qui font des poules de hockey.
Ah, ben oui.
Donc, lui a commencé à déjà étudier les revues spécialisées. Il va nous parler un peu de comment ça fonctionne et ainsi de suite.
Oh, ah oui, ça c'est... Les poules de hockey, il faut toujours faire attention. Il faut se méfier des joueurs qui viennent de signer des gros contrats, ceux qui viennent de changer d'équipe. Il y a des trucs qu'il faut avoir à l'œil. Et une fois qu'on a lancé notre poule, il faut aussi suivre la liste des blessés. Hein? Moi, je me suis retrouvé avec Pasternak pendant plusieurs semaines alors qu'il était sur le carreau. Puis je me demandais pourquoi mon poule traînait de la patte. Ben voilà. Ben, merci beaucoup, Dominique. On s'entend pour se reparler à votre émission. Vous êtes là demain, mardi 1er décembre, 21h. C'est tout pour nous aujourd'hui à Sans détour. Alors, évidemment, un gros merci à Christiane Campagna, notre collaboratrice hors pair, qui fait le tour du monde sur l'autoroute informatique. Et aussi, évidemment, je m'en voudrais de ne pas mentionner Jean-Sébastien Laliberté, notre DJ et metteur en onde sans qui rien n'est possible.